sur France Inter, on va déguster.
On essaie de faire une pêche de plus en plus responsable. Quand on applique ça sur des eaux internationales, bah c'est vrai que ça nous fait rager parce que bah, les Anglais ne travaillent pas de la même manière que nous. Si on est dans un Brexit dur, vous vous doutez bien que bah, là, ils vont devenir complètement autistes, quoi.
Notre reporter Stéphane Combe a tendu le micro à Quentin Yonnet, hein, le patron pêcheur de l'alter ego. Et la question du Brexit est évidemment dans tous les esprits en Normandie, puisque, on le sait, les pêcheurs français et anglais, c'est assez médiatisé dans les journaux télévisés, se livrent depuis quelques années à une véritable bataille navale. Éric Morin, qu'est-ce que le Brexit va changer dans nos relations bilatérales avec le Royaume-Uni au sujet de la pêche à la Saint-Jacques? On va tenter, grâce à vous, d'y voir plus clair.
Accrochez-vous, François Régis. Sous quai les artémuses, à rimer fort les nœuds, ça va tanguer fort. Alors, la pêche est un sujet sensible et sérieux, en gros depuis que la France est géographiquement en face de l'Angleterre et inversement. L'Union européenne est aujourd'hui le plus grand marché mondial des produits de la pêche. C'est le 5e producteur au monde. Alors, on connaît tous la PAC, la politique agricole commune. On connaît moins la PCP, la politique commune de pêche qui existe depuis 1983. Cette PCP, elle a été conçue pour gérer les ressources communes issues de la mer et donner ainsi à l'ensemble de la flotte des pays européens une égalité d'accès aux eaux du territoire. Elle comporte quatre piliers, dont le plus sensible est sans nul doute la gestion durable des ressources de la mer. Et ce point mérite qu'on affale un instant les voiles et qu'on y regarde de plus près. Chaque année, le Conseil de l'Union européenne fixe des totaux admissibles de capture pour chaque espèce et secteur de pêche sur l'avis scientifique, qui vont permettre de déterminer les fameux quotas. Alors, dès qu'un quota est atteint, dans une zone déterminée, on prend un arrêté d'interdiction. Il y a aussi des mesures techniques qui sont adoptées afin de permettre une exploitation durable des stocks, comme la limitation de la capture des juvéniles, les règles minimales de maillage de filets, l'interdiction de certains types d'engins ou la fermeture temporaire de certaines zones de pêche. Or, ben depuis toujours, les pêcheurs britanniques s'opposaient à cette politique commune. Le côté ilien, sans doute de lointain, reste mais tenace des postures de l'amiral Nelson.
C'est ça. Et pourquoi ?
Un simple coup d'œil sur les chiffres permet de le comprendre. Les eaux du Royaume-Uni sont très poissonneuses. Et alors que les pêcheurs anglais prennent environ 90 000 tonnes en dehors de leurs eaux, ce sont 760 000 tonnes, 8 fois plus, qui sont pêchées chez eux par les autres Européens. Ça fait 40% des poissons de l'Union européenne. Alors autant dire que le Brexit leur fait gonfler les voiles. On ne peut plus survivre avec les réglementations européennes, donc on va continuer seul pour les éviter, déclare tout de go Steve Barratt, c'est le leader des pêcheurs de Ramsgate, un joli port de pêche au sud de l'Angleterre, à portée de canon de Dunkerque. Alors l'enjeu est considérable, puisque les pêcheurs européens dépendent de l'accès aux eaux territoriales britanniques. Mais en même temps, les pêcheurs britanniques dépendent pour leur survie économique du marché européen, puisqu'ils y vendent, tenez-vous bien, trois quarts de leur pêche. On voit bien l'équilibre qui a présidé jusqu'à présent et qui était gagnant-gagnant. Je pêche dans tes eaux poissonneuses, tu écoules ta pêche sur un marché attractif, ton poisson, il est frais. Alors que va-t-il se passer maintenant? Enfin, quand je dis maintenant, je parle dans les mois qui viennent. Eh bien, tout va dépendre, puisque de toute façon, il y aura un Brexit. Donc deal or no deal, that is the question. Et comme tout le monde a parfaitement compris et maîtrise à la perfection le déroulement du Brexit...
Oui, c'est ça. On n'y comprend juste rien du tout.
Bon, ben justement. Alors, je vais tenter une explication claire. C'est bien parce que c'est dimanche. Alors, en cas de Brexit avec accord, eh bien, cet accord permettra d'y inclure des mesures de transition afin d'éviter les abordages belliqueux en pleine mer et les coups de semonce entre pêcheurs. Espérons que le poisson anglais morde enfin à l'hameçon des prochaines élections qui sont prévues le 12 décembre prochain pour qu'un accord soit enfin adopté au plus tard le 31 janvier 2020. C'est l'ultime date pour la sortie du Royaume-Uni. Alors, en cas de no deal, et cette hypothèse qui n'en est vraiment pas une, ça aurait pour conséquence de fermer brutalement l'accès aux eaux britanniques pour l'ensemble des pêcheurs européens. La législation britannique serait alors la seule à s'appliquer. Les navires non immatriculés au Royaume-Uni n'auront plus accès automatiquement aux eaux anglaises, et les pêcheurs britanniques, eux, verront leurs produits bloqués ou taxés par nos douanes. Bref, il va y avoir du gros temps dans une mer forte à agiter, comme on dit dans la météo marine. Alors l'Europe a déjà prévu des mesures de compensation au travers d'un fonds spécifique pour les pêcheurs, mais l'idéal, ça serait un accord réciproque qui pourrait prendre la forme d'un traité bilatéral et qui éviterait ainsi une nouvelle guerre maritime entre l'Europe et la Grande-Bretagne, dont personne assurément ne sortirait vainqueur. Cela étant dit, et au-delà de cette question épineuse du Brexit, le vrai danger qui menace aujourd'hui toutes les côtes européennes confondues, ce sont ces bateaux-usines Le dernier en date, c'était pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Un bateau néerlandais de 143 mètres de long qui pillait violemment les fonds marins anglais, mais qui pourrait bien se rabattre sur nos eaux françaises après le Brexit. C'est un véritable désastre écologique. Jusqu'à 250 tonnes de poissons pêchés et transformés par jour. Ces grands navires-usines fonctionnent comme des aspirateurs, ils raclent les fonds marins, détruisent absolument tout, et en 2013, ce même bateau néerlandais avait été interdit de pêche dans les eaux australiennes. Alors il y a quelques jours, le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a envoyé une lettre au ministre de l'Agriculture pour l'alerter de cette situation. Ce navire-usine est une menace absolue pour les réserves de poissons dans la Manche, a-t-il écrit à Didier Guillaume. Je souhaite connaître les mesures que vous comptez prendre si ce navire entre dans nos eaux territoriales. À ce jour, aucune réponse. Une bouteille à la mer, en somme. Et ça, Brexit ou pas, il est nécessaire de rester unis avec nos meilleurs ennemis héréditaires pour bouter ces usines flottantes hors de nos eaux.
Bien dit, Maître Morin, merci beaucoup. Allez, on se détend un tout petit peu avec une petite bouteille que vous nous avez apportée. Qu'est-ce qu'on boit?
Parce que le vin est l'une de vos passions. Eh bien, on boit un vin d'Alsace. Alors, l'Alsace et les fruits de mer, c'est un grand classique. Je vous emmène à Eschoffen, chez Louis Maurer, qui est un très jeune vigneron de 24 ans, qui a repris une poignée d'hectares familiaux. Il fait un Gewürztraminer très étonnant. Ça s'appelle l'étrange orange. C'est un vin de macération avec une note finale très minérale. Il n'y a pas une once d'oxydation. Et je peux vous dire que l'accord avec les coquilles Saint-Jacques est assez magique et assez surprenant. C'est la rencontre du raisin, de l'agrume et de l'iode dans votre assiette. C'est 15,90€ à la cave d'Ivry, chez le truculent Paco Mora.
Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe
Saint-Agne? C'est très surprenant. C'est magnifique et ça m'emmène vers des notes de coin, de fruits mûrs, oui, d'automne. Donc c'est vraiment...
D'orange sanguine, un peu confite aussi, peut-être de litchi.